Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile du règne de Dieu. Et le titre pour aujourd'hui sera « Le peuple de Dieu ». À l'époque de Jésus-Christ, le monde se trouvait mûr pour la récolte, parce qu'il y avait dans le pays des gens qui attendaient le royaume de Dieu. Jamais nous ne forcerons la venue du royaume par des livres ou par des discours ou par un enseignement quelconque. Nous devons être des individus placés dans la lumière de Jésus-Christ et dans sa force. Alors le monde s'éclairera. C'est pourquoi le mot d'ordre est « Lève-toi et deviens une lumière » et non pas « Écris tel ou tel livre sur telle ou telle prétendue vérité » mais « Deviens toi-même une véritable lumière ». Quand la lumière de Dieu pénètre dans notre monde, c'est par des personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes que des rats de bibliothèque et nous cherchons la lumière dans les livres, nous la cherchons dans les opinions, dans les enseignements, dans les vues des hommes tels que Internet, Google, etc. Et nous oublions pendant ce temps que quelqu'un peut avoir une vue très intéressante et malgré cela, être un homme, hélas, mauvais. Avez-vous entendu cela? Ou si je le répète, nous oublions pendant ce temps que quelqu'un peut avoir une vue très intéressante et malgré cela être un homme mauvais et que quelqu'un peut avoir, par exemple, le parler très délicat et même aimable, et pourtant être grossier intérieurement. Or, nous devons apprendre à être à nouveau attentifs à la lumière de Dieu qui se manifeste dans les personnes. N'oublions pas que Satan peut imiter la lumière, car Satan s'empare lui aussi des personnes. C'est donc que les hommes jouent un rôle dans le domaine chrétien aussi. Satan sait parfaitement qu'il faut que tout vienne par les hommes. Alors on entend crier sur toutes les tons « C'est moi !» Et des multitudes répètent en chœur « Oui, c'est lui !» Il est souvent très difficile de distinguer les véritables lumières des fausses, car les fausses se présentent également au nom de Jésus-Christ. Mais voici une pierre de touche. Si quelqu'un commande comme on le fait dans le monde, cela ne produit pas de vraie lumière. La véritable lumière éclaire autrui comme fait du reste le soleil. La lumière de Jésus fait resplendir autrui, alors que soi-même on se fait oublier. Voyez-vous, là où l'on doit se gêner, où l'on doit avoir peur, où tremblant et hésitant, on ne trouve pas le repos, eh bien là est la fausse lumière. Par contre, là où les hommes renaissent à la vie, là où ils se sentent à l'aise, où ils supportent l'épreuve plein de vie et avec courage, là où ils envisagent leur ruine plein d'espérance et où ils s'élèvent d'un vol comme l'aigle, malgré toute leur misère, eh bien oui, là se trouve la véritable lumière. Donc là où il n'y a aucune violence, aucune pression par la force, où règne la liberté et l'amour de Dieu, cet amour qui aime les pécheurs, qui ne méprise personne, qui prend souci même de l'ennemi, eh bien là est la véritable lumière de Jésus-Christ. C'est pourquoi soyez fidèles à l'Évangile et devenez une lumière. Dieu place son serviteur comme alliance avec le peuple, afin qu'il relève le pays. Ésaïe 49, verset 8. Mais ce serviteur peut penser qu'il travaille en vain et se fatigue inutilement pour Dieu. Aussi a-t-il besoin de la consolation de Dieu qui lui dit « Je t'ai protégé ». Certains contemplent avec orgueil les fruits de leur travail. Ils font parade des œuvres de leurs mains, de leur esprit et de leur talent d'organisateur. Mais il n'en résulte en réalité rien pour le relèvement du genre humain. Or, le serviteur de Dieu ne travaille pas avec ses propres forces. Il remet toutes choses à Dieu. Il ne peut pas s'en rapporter à ses œuvres personnelles, mais précisément, il sera protégé et placé pour traiter alliance avec le peuple. Il est donc la preuve que Dieu n'abandonne pas les hommes. Il est véritablement la force, l'amour, la compassion de Dieu pour son peuple. Sans lui, une alliance pour le redressement serait à peine possible. Car ce que Dieu peut être en général pour les hommes, et ce que les hommes peuvent, généralement parlant, avoir au cœur d'aspiration et de désir d'une aide divine, cela ne suffit pas pour le relèvement. C'est seulement quand Dieu est représenté par un serviteur qu'il peut, par lui, répandre sur terre une force toute-puissante capable d'accomplir ce redressement. Et ce serviteur, c'est Jésus. Il n'a, à proprement parler, rien fait sur terre. Il n'a institué aucune organisation. Il n'a rien fondé politiquement, socialement, ecclésiastiquement. Il n'a pas fondé d'institutions ni construit des cathédrales. Mais il a vécu. Il était là et a agi en esprit pour le peuple. Il n'a pas remué un doigt. Il n'a pas fait un pas pour changer quelque chose, même contre les Romains, et pas même contre le temple. Et pourtant, il a été l'homme, et de lui déborde l'expérience que le monde pourra encore être relevé. Or, depuis qu'il est devenu invisible sur la terre, il doit se perpétuer dans le visible, c'est-à-dire dans ses apôtres et dans ses serviteurs et servantes. Ainsi, il y a depuis Jésus-Christ une série ininterrompue de serviteurs qui semblent également travailler en vain. Ceux qui fondent des églises ou de puissantes organisations qui se haussent au premier plan politiquement ou socialement. Ceux-là proclament naturellement, ils disent, nous ne travaillons pas inutilement. Voyez un peu nos établissements, nos cathédrales et notre merveilleuse organisation. Car dans chaque village, il y a une église. il y a un pasteur, il y a un prêtre, il y a une école. Mais le serviteur qui ne voit dans tout cela rien qui le relève, se demande, ai-je donc travaillé en vain ? Un tel serviteur doit être là qui a la place de Jésus-Christ et représente l'invisible afin que lorsque le temps sera venu, la force de Dieu puisse se manifester en un homme visible, en un peuple visible, afin que Dieu, à travers le visible, puisse relever le genre humain. Car il faut quelque chose qui nous relève. Nous sommes tombés et corrompus, mais toujours au sein de l'humanité se lève à nouveau le cri, il faut que cela devienne meilleur. Dans cet « à nouveau » s'exprime un souvenir de notre patrie. Nous descendons en effet de Dieu, et cela, nous ne pouvons le nier. La hantise du paradis nous poursuit, la hantise de l'éternité d'où nous sommes issus. C'est donc là notre source originelle. Nous devons revenir à cette source qui est la nôtre, alors nous serons relevés. Quand nous obéissons au péché, à l'erreur, c'est quelque chose d'étranger qui pèse sur notre âme et sur notre corps et qui obscurcit notre esprit. C'est cette chose étrangère qui nous rend malheureux et non le moi personnel. Il doit donc y avoir une raison pour que nous ayons glissé dans ce dôme étranger. Nous devons surmonter cet élément étranger. Et nous y arrivons quand nous tenons ferme à ce que nous est propre originellement. Or, le serviteur de Dieu, qui sous l'influence étrangère tient ferme à ce qui lui est propre, c'est lui qui nous conduit à la victoire. C'est sa foi qui surmonte le monde. Il faut qu'il y ait toujours des hommes pour Sion. Sion n'est pas seulement un lieu terrestre, c'est la cité royale spirituelle. Et Sion ne porte pas de fruits aussi longtemps qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes pour cette tâche. Car c'est par Sion que Dieu veut secourir l'humanité. La terre, il pouvait la créer à lui seul, mais il ne veut pas secourir les hommes sans leur participation. Les hommes sont d'un rang trop haut pour que Dieu ait voulu leur venir en aide sans leur coopération. Le nombre est une chose accessoire en ce qui concerne les serviteurs de Sion. Il s'agit de qualité. Ils doivent être une phalange sacerdotale à l'âme assez forte pour que le monde entier puisse se surprendre à eux. Ils doivent donc être des hommes et des femmes que la pensée n'accapare pas, qui ne se forge pas des idées sur toute chose, mais qui simplement dans une confiance bienheureuse ne s'en remettent que à leur Père au ciel. Chers amis, la prophétie que le fleuve ne te submergera point et que les flammes, ne te brûleront pas est écrite dans Ésaïe 43, verset 2. Cela n'est pas une promesse pour tous, car beaucoup dans leur misère périssent corporellement et spirituellement. Mais parmi cette masse d'hommes, il en est quelques-uns qui jouissent d'une protection spéciale. La Sainte Bible les nomme les servantes et les serviteurs de Dieu. Ils courent les mêmes dangers que les autres, mais cela les fortifie sans les blesser. Ils entendent l'appel de Dieu quand il dit « Tu es à moi » et ils tiennent ferme à cet appel. Ils restent sous la protection de Dieu. C'est seulement quand nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de servir Dieu, que nous obtenons sa protection. Mais si nous ne mettons pas le service de Dieu au-dessus de tout, nous n'aurons pas les miracles qui sont promis aux serviteurs de Dieu. Rien n'est pire que la demi-piété, c'est-à-dire la tiédeur. Aux tièdes, il a été dit qu'ils seront vomis. Cela ne signifie pas qu'ils soient à jamais perdus, mais ils sont tout de même provisoirement exclus du royaume de Dieu et du travail pour le royaume. Il est très difficile d'être appelé au service du royaume de Dieu. Tant de faux appels résonnent si fort que souvent l'on n'entend pas l'appel réel de Dieu. Celui-là est si simple. Il réside uniquement en ce sens qu'il nous fait appartenir désormais à Dieu. Oui, tu es à moi. Cet appel peut être adressé à chacun, au maître et au serviteur, au pasteur en chair comme à l'enfant au milieu de ses jeux. Chacun reste ce qu'il est. Et à la place où il est, le roi reste roi, et l'ouvrier reste ouvrier. Il n'y a pas besoin de devenir pasteur ou missionnaire ou diaconesse. Ce qui vient de Dieu convient à tous. La richesse, pas plus que la pauvreté, ne peut te nuire. Mais tu dois être un homme, une femme, droit. La parole de Dieu te rend simple et naturel. Toute particularité disparaît aussitôt que la vraie parole de Dieu te touche. Sois seulement joyeux et comme un enfant. Laisse ta vie appartenir à Dieu. Alors, tu es sous la protection de Dieu et tu pourras expérimenter les mêmes miracles qu'Abraham. Quand un serviteur de Dieu meurt dans une assurance et une fermeté complète et une volonté entière au service de Dieu, eh bien là, la semence de sa vie lève carrément après sa mort. Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Cette expérience doit donc nous rendre forts. Quand la tempête se lève dans ton cœur et le bouleverse, quand elle chavire ton esprit, quand le péché et la folie te submergent et que les griffes de la mort t'en serrent, eh bien le péché ne te possède pas et la mort ne t'a pas, c'est Dieu seul qui t'a, c'est lui qui te possède. Le Sauveur, il t'a élu. Et si tu es élu, alors tu ne deviens pas seulement pieux ou semi-chrétien, mais tu peux pénétrer dans le royaume de Dieu, dans le domaine où Dieu gouverne, arraché aux puissances du monde et à tes propres forces et plongé dans la splendide et transfigurante force de Dieu. Il ne faut pas prendre aussitôt dans un sens étroit le mot être élu et dire « Oh, Dieu a élu ceci et cela, mais moi, eh bien, il ne m'a pas élu. » La logique ne régit pas dans le royaume de Dieu. Nous ne devons pas rendre les gens inquiets avec notre raison brutale. Il y a une généralité qui concerne tous les hommes, toutes les femmes, dans le rapport que Dieu entretient avec chaque homme et chaque femme en particulier. L'amour de Dieu s'étend à tout homme qui vient dans le voisinage de Jésus. D'abord, on est appelé, mais chaque appelé peut aussi devenir un élu. Considère-toi donc comme élu. Et si tu aspires à Dieu, d'où crois-tu donc que tu viennes, que te vienne cette aspiration? Si même tu dois passer par l'enfer, si ton cœur tremble et hésite, eh bien tu es pourtant élu. Tu descends dans les profondeurs et tu remontes vers les hauteurs. Il t'a élu. Alléluia. Dieu doit toujours avoir des élus, sinon sa cause se perdrait. On s'efforce à divers titres devant cette pensée qu'il y a des élus, car on ne peut arriver à concevoir qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne dominent pas quand ils sont quelque chose et ne dérobent pas quand ils possèdent quelque chose. On s'effraie également à la pensée d'une domination sacerdotale. Mais chez les élus, il doit en être autrement. Si l'on est quelque chose, il doit l'être pour d'autres. Et si quelqu'un possède quelque chose, il doit l'avoir pour d'autres. Ainsi, Dieu est quelque chose et il l'est pour tous, pour ses créatures, oui, pour tout ce qui vit. Et c'est ainsi que les créatures lui appartiennent parce qu'il les nourrit. Ainsi, nous sommes de race divine, si ce que nous sommes profite à autrui, et si ce que nous possédons se transforme pour tous ceux qui lui appartiennent. La disposition à agir ainsi est le propos de l'homme et le contraire. C'est le péché et l'inhumanité. Voyez-vous, là où uniquement la culture s'introduit, le péché règne. Et si cette déformation envahit le royaume de Dieu, c'est terrible. Dans ce royaume-là, il doit y avoir des prêtres, mais un prêtre n'est pas un dominateur. Il est au contraire celui qui porte le fardeau. Il est le délégué de Dieu, lequel fait participer les autres à sa nature et à ce qu'il possède. Où l'intérêt personnel domine, comme c'est le cas d'un Donald Trump, tout se gâte dans le royaume de Dieu. Chers amis, Dieu ne se contente pas d'en avoir quelques-uns au-delà de ces quelques-uns. Il regarde à la multitude de ceux qui sont perdus. Abraham ne doit pas être satisfait aux dépens du monde, mais il doit souffrir au profit du monde et aux dépens d'Abraham. Il veille donc sur toutes les créatures de la terre. Israël est élu, afin que par lui, Dieu atteigne d'autres peuples, d'immenses masses des hommes qu'il nomme ses brebis, et c'est aux dépens d'Israël que Dieu vient au peuple. Ensuite, aux dépens de Jésus, Dieu va au peuple. Et c'est aux dépens de la communauté de Jésus que le monde doit être transfiguré. Nous devons donc nous dévouer et être, pour ainsi dire, la réserve de Dieu quand il est à la recherche de ses brebis. Nous recevons le bien à la fin. Une fois que les autres l'auront en partage, nous le recevrons aussi, soyez-en certains. Il n'y a pas assez d'hommes, et j'ajoute de femmes. Vous l'avez compris, quand je parle d'hommes, la Bible, elle inclut les femmes. Alors des fois j'ajoute le mot femme pour qu'il n'y ait pas de malheur, de déception ou des choses qui peuvent déplaire à nos sœurs en Christ. Je ne voudrais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être assombri ou attristé. Alors, rappelez-vous, quand la Bible parle d'homme, des fois j'ajoute le mot « femme » uniquement pour pouvoir faire comprendre à mes sœurs chrétiennes que vraiment le Seigneur, il ne parle pas que des hommes. Il veut dire par là les hommes et les femmes. Alors je répète, il n'y a pas assez d'hommes et de femmes aux dépens de qui Dieu pourrait par exemple agir. L'égoïsme des humains est bien trop grand, et cet égoïsme s'est glissé également dans la foi des chrétiens. Ils cherchent en Dieu, en quelque sorte, leur propre intérêt, et à ce compte, ils perdent leur esprit combatif et leur solidité de pilier. Un pilier doit être solide. Alors, il chancelle. Et Dieu, il n'a plus de point d'appui. Il y en a tant pourtant qui savent mourir pour leur pays, c'est vrai. Alors pourquoi ne voulons-nous pas, nous, chrétiens, mourir pour notre cause et pour la volonté de Dieu qui est le Père des peuples. Or, il faut qu'il y ait des hommes, et vous l'avez compris, ça veut dire des femmes, qui soient remplis d'un tel zèle pour la cause de Dieu, pour les brebis du Seigneur, pour les petits et les misérables, qu'ils ne fassent plus aucun cas d'eux-mêmes. Il faut oublier le moi. On en appelle au sang de Jésus-Christ pour sa propre félicité, mais la vertu du sang de Jésus-Christ, elle est précisément de nous demander notre vie afin que vienne le royaume de Dieu. Les apôtres nous donnent le mot d'ordre, ils n'enseignent pas, ne dogmatisent pas, mais ils nous expliquent le combat auquel ils prennent part. L'évangile qui convient à la foule est très simple, craignez Dieu et rendez-lui hommage, soyez dans ce que vous êtes, des créatures de Dieu. La grâce de Dieu est apparue pour tous les hommes. La lumière viendra, n'ayez point de peur. L'Évangile n'entend pas instituer une domination du peuple avec des parlements. Il vient pour annoncer ceci, que la cause est en bonne main. Nous avons un monarque suprême qui fait le nécessaire absolument pour tous les hommes. Et j'ajoute, vous l'avez compris, femmes. Vous appartenez donc à Dieu. La connaissance qui doit se graver dans le cœur de nos foules se réduit à cela, nous sommes à Dieu. Nul n'échappe à sa main. Les chrétiens ont été beaucoup trop lâches dans leur foi en Dieu. Cette lâcheté est venue de ce que l'on a trop présumé des hommes. Il en est résulté naturellement que toute une foule de gens s'est rangée du côté opposé, et cela fut le commencement de la condamnation. Nous devons donc hardiment dire de nouveau au monde, tu appartiens à Dieu et tu ne sortiras pas de ses mains. L'assurance en Dieu fondée sur la foi en la révélation de Dieu en Jésus-Christ doit être totalement différente de ce qu'elle était au temps de l'Ancien Testament. Où serait le progrès si les uns devaient à nouveau appartenir à Dieu et les autres pas? Le progrès consiste donc à élargir le champ d'action dans l'emprise totale d'un monde éloigné de Dieu par le péché, et le monde est à moi, a déclaré Dieu en nous envoyant Jésus-Christ. C'est là la grâce libératrice de Dieu pour tous les hommes. De cette masse se distingue donc un petit nombre d'hommes et de femmes qui sont, pour ainsi dire, les ministres de Dieu. Ils délivrent un peuple de toute iniquité et il en fait sa propriété. Il l'arme de sagesse et de force pour défendre sur terre sa cause naturellement pour le bien des autres et non pas contre eux. L'état-major doit donc entrer en lice pour le peuple. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu doit toujours tenir ferme l'évangile. Désormais, tout est à Dieu. Aucun homme ne peut appeler Jésus maître s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ils sont provisoirement écartés du combat qui doit être mené pour le royaume de Dieu. Ils ne sont pas encore mûrs pour combattre. Ils sont au nombre des malheureux pour le moment. En envoyant ses disciples dans le monde, le Seigneur Jésus inaugure un nouveau monde. L'embryon d'un monde divin entre dès lors en lutte avec un monde humain fait de vieilles habitudes. Cette humanité-là subsistait depuis des millénaires et quelques lumières qu'il y eut en elle, sous le gouvernement de Dieu, les hommes n'avaient pourtant aucune idée du mensonge sous lequel ce monde était enterré. Même le peuple que Dieu voulait éduquer pour lui ne parvenait pas à s'évaluer du manque de sincérité des relations humaines. Comme les vagues tumultueuses qui battent les rivages, eh bien les coutumes et les idées nationales pénétraient aussi dans Israël. Or, avec Jésus, commence un monde tout nouveau, un monde nouveau de Dieu. Jésus établit, pour ainsi dire, une forteresse autour de lui contre les vagues furieuses du monde. Cette forteresse ne peut plus tomber. Hélas, nous ne sommes pas en droit de dire qu'elle ne tombe pas parce qu'il y a là un peuple de Dieu qui ne se laisse plus tromper. Des nations chrétiennes elles-mêmes périssent malheureusement tout comme des païens. Elles ne sont pas chrétiennes au sens de la cité de Dieu. Aussi n'ont-elles aucune protection quand, bien même, elles se parent de rayons de lumière de Dieu pour s'en faire gloire. Mais voyez-vous, la véritable forteresse de Dieu ne tombe pas parce que Jésus est là, parce que la cité de Dieu qui s'est établie autour de lui sur terre protège en même temps sa personne. Déjà les émeutes intérieures et extérieures des peuples, telles que la guerre, les massacres, les courants sataniques dans les esprits, tout s'était ligué pour se débarrasser du Seigneur Jésus. Mais rien n'a pu le vaincre, ni lui, ni la communauté qui se tient à ses côtés. Il est fâcheux que durant des siècles, le progrès de l'humanité n'ait pas été l'œuvre des chrétiens. Donc, nous devons être reconnaissants à ceux qui ont travaillé au progrès de la civilisation, tels que les savants, les naturalistes, les médecins et hommes du peuple. S'ils ne s'étaient pas toujours mis à nouveau à la tête du progrès, où en serions-nous aujourd'hui? Mais, à vrai dire, le progrès est incomplet. À quoi nous sert une civilisation qui finalement désespère de Dieu? C'est pourquoi il faut pourtant qu'à la fin, les disciples de Jésus se mettent à la tête du progrès, eux, les ouvriers de Jésus-Christ, qui représentent la lumière du monde et le sel de la terre. Chers amis, celui qui a une couronne de vie a son mot à dire pour la vie. Si la cause qu'un homme représente sur terre est de Dieu, alors sa couronne dure éternellement, mais si elle n'est pas de Dieu, la couronne tombera un jour de sa tête. Les hommes se forgent aussi des couronnes dans des domaines moindres, mais avec le temps, eh bien, ils perdent leur couronne. Aujourd'hui, les gens de guerre, par exemple, perdent leur couronne. Or, il nous faut des héros de la paix. De même, les couronnes de la science et de l'art perdent de leur éclat. Mais, si nous sommes des répondants de Dieu, de l'amour de Dieu envers les hommes et de la vie divine, qui doit devenir le partage des hommes, alors nous gagnons une couronne qui demeure éternellement. Les témoignages des hommes de Dieu subsistent pour l'éternité. Un Alexandre le Grand perd peu à peu sa couronne. Or un Moïse, un Ésaïe et un apôtre Pierre ou apôtre Paul, jamais. C'est cette couronne de vie que les chrétiens doivent conquérir. Ils doivent se porter garant de ce qui est l'apanage des hommes, c'est-à-dire la vie éternelle. Ils doivent représenter le plus haut sommet du progrès dans l'humanité, le progrès de notre personnalité propre. Ils doivent porter en eux le témoignage d'une nouvelle éducation des hommes. Et s'ils sont fidèles en cela, ils recevront la couronne de vie et ils auront aussi leur mot à dire en ce qui regarde la vie. Le royaume de Dieu ne vient pas simplement de façon catastrophique. Il vient peu à peu car il arrive par des hommes et des femmes qui reçoivent des couronnes de vie. Celui qui a quelque chose à dire pour les autres devant Dieu, quelque chose qui compte dans le ciel, eh bien celui-là possède une couronne de vie. Or, une couronne de vie, un homme ne la reçoit que s'il est franchement, librement à Dieu, s'il est bien une nouvelle créature en Jésus-Christ. Même s'il n'y a qu'un petit nombre d'hommes et de femmes de ce genre-là, ils ont pourtant une influence sur le développement du monde. Le monde n'est pas mauvais en soi, mais il est pareil à une matière brute. Et cette matière brute doit être façonnée par l'Esprit Saint de Dieu. Pour cela, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient quelque chose à dire relativement à la vie et qui soient capables de la diriger vers le progrès. Ce Jésus qui est venu en chair, il est la lumière du monde. On pourrait aussi dire, il est la formation du monde. Il est le seul qui, en toutes circonstances, parmi les bons et les mauvais, savait se conduire de façon divine. Il vivait uniquement de Dieu. Il savait parler et vivre de façon divine avec chacun, même avec les impies. Ainsi, l'essentiel dans la formation de son peuple devait être la vie. Les Grecs étaient cultivés dans l'art de la science, les Romains dans la vie civique, mais ni les uns ni les autres ne possédaient la véritable vie qui donne la paix. Le peuple de Dieu, lui, doit comprendre la vie, et pas seulement la vie de l'individu, mais la vie de la communauté. Il doit comprendre pourquoi l'homme est sur la terre et comment, dans ses occupations terrestres, il atteint ce qui est droit et véridique. Il doit aussi comprendre le monde, il doit comprendre la création, afin que ce qui est sur terre appartient à la vie, prenne un autre rythme, et que la vie puisse devenir ainsi sensée sur cette terre. Aujourd'hui, nous avons des millions de pseudo-chrétiens, mais ce ne sont pas des hommes de vie. Ils n'en savent pas plus long que les autres hommes et femmes. Tout au plus, ils se préparent pour l'au-delà, en même temps qu'ils se retirent de la vie terrestre, mais cela n'en fait pas des hommes et des femmes qui aient vraiment la lumière de vie. On n'aperçoit pas en eux les vertus de Dieu qui les appelle à sa merveilleuse lumière. Ces vertus divines étaient bien là. Oui, ils étaient là chez quelques-uns, mais elles restaient cachées. Il y a bien sur le terrain du christianisme une certaine culture supérieure, mais elle ne pénètre pas, à proprement parler, dans la vie. Aujourd'hui, on recherche des chrétiens qui aient en eux des vertus de Dieu. On ne demande pas seulement ce qu'ils croient, mais comment ils vivent. Il faut donc que le jour vienne où tout homme, dans chacun de ses actions, pourra rester en harmonie avec le Père qui est au ciel. Ainsi, la victoire remportée par Jésus-Christ brisera en nous la folie du monde, Le temps doit donc venir où nous chercherons notre félicité dans l'application des vertus divines à la vie pratique quotidienne. Oui, nous devons être ceux qui ouvrent les portes, en quelque sorte. Nous devons être la clé du monde. Les chrétiens ne sont que des précurseurs. Nous devons donc être, sur cette terre, une communauté dans l'attente, oui, une communauté qui sait que sa tâche est de veiller toujours à ce que les forces célestes pénètrent le monde, une communauté qui languit de son Sauveur dans le ciel. Étant ceux qui attendent le Sauveur, il nous a désignés pour veiller aux portes. Nous ne sommes pas appelés à de grandes tâches. Nous sommes appelés à rendre de modestes services à notre maître et nous devons nous tenir aux portes comme des valets et comme des servantes. Et nous remplissons ainsi notre, tout simplement, notre modeste devoir en acceptant d'être des gardiens aux portes. Déjà aujourd'hui, il y a des portes ouvertes pour ceux qui font le guet. Le Sauveur est déjà en chemin. Il répand dans nos cœurs et dans nos âmes beaucoup de choses bonnes et douces, afin que dans les épreuves et dans les douleurs de cette vie, nous puissions entrevoir une clarté céleste comme gardien aux portes. Eh bien, nous sommes déjà d'heureuses gens, même si nous devons encore attendre, nous attendons volontiers et avec patience. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur approche. Veuillez donc bien comprendre cela. Veiller, cela fait partie, le temps deviendra plus court et il deviendra béni. Si nous veillons solennellement, eh bien nous ne serons pas comme les vierges folles, mais comme les vierges sages. En terminant notre étude, disons, comme nous veillons, nous devons de même prier. N'oubliez jamais la prière. Intercédez les uns pour les autres. C'est ce que nous recommande le Seigneur. On n'a pas le droit de nous interdire de prier pour que le Seigneur Jésus vienne. Beaucoup pensent qu'il est même insensé de prier pour la venue du Sauveur. Ce qu'il viendra à son heure, ils disent simplement, de toute façon, on ne peut rien changer. C'est inscrit dans le ciel et à laquelle nous ne pouvons absolument rien changer. C'est ce que certains pensent. Or, intercéder, ça fait changer les choses. Une maman a intercédé pour son enfant gravement malade, où les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire ». Elle a continué d'intercéder. Et son enfant a été guéri. Eh bien, qu'on nous laisse être insensés, comme gardiens des portes, nous ne pouvons nous lasser de prier. Seigneur Jésus vient, oui, c'est à nous de le vouloir et de le désirer. Ce n'est pas la tâche de tous les chrétiens, évidemment, d'être gardien des portes. Mais celui que le Sauveur a placé à ce poste, eh bien, doit prier jusqu'à ce que le Maître arrive. Amen. chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur, je veux te suivre et sans impatience, le front toujours serein, ne regarder qu'à toi. Trouver dans cette épreuve un peu plus de science pour vivre de ta grâce et pour marcher par la foi. Tu ne veux plus subir le joug de l'habitude, ni croire que l'esprit a cessé d'inspirer. Non, je ne veux plus subir cela. Je veux non plus redouter aucune certitude, ni craindre qu'avec toi je puisse m'égarer. Avec toi je ne vais jamais m'égarer. Je ne veux surtout pas avoir le bruit de vivre sans les fleuves d'eau vive et la fécondité. Je ne veux pas qu'on pense, en me voyant te suivre, que en vain je me prévaux de ta fidélité. Viens donc mettre une fin au charnel ministère qui me barre l'accès des œuvres de l'esprit. J'accepte de la croix ta souveraineté absolue. J'accepte tout, Seigneur, car je veux être guéri, je veux être délivré, je veux avoir la victoire en et par toi. Viens donc abattre, viens couper, crucifier, viens détruire n'importe quoi, pourvu que hier soit totalement effacé et qu'à l'heure où demain tu viendras pour reconstruire, pour que ta gloire puisse émerger des ombres du passé. Amen. Et, chers amis, souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série.